nous allons continuer ensemble notre étude des dons spirituels, les pneumaticos, ces communications miraculeuses, surnaturelles et ponctuelles du Saint-Esprit. Et puis aujourd'hui, on va parler de la parole de connaissance. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance, ça a toujours été le terrain de prédilection du diable. D'une façon ou d'une autre, il y trouve toujours son compte. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre le don de la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va regarder, puisque j'ai pris dans l'ordre de ce tableau, je vous l'avais expliqué, j'ai regroupé les 9 dons en 3 catégories. Les dons d'inspiration, ça on les a déjà étudiés ensemble. On avait commencé les dons de révélation avec la parole de sagesse. Aujourd'hui, on arrive à la parole de connaissance. Alors qu'est-ce que c'est la parole de connaissance? Eh bien, comme tous les dons de l'esprit, la parole de connaissance, c'est évidemment une communication du Saint-Esprit, une communication surnaturelle. Cette communication, elle est surnaturelle, j'insiste sur chaque terme. Cette communication est surnaturelle, cette communication, elle est spontanée et elle est ponctuelle. Non, je ne sais pas tout. Je sais ce que l'Esprit me révèle de façon miraculeuse à un instant T, à un instant précis, pour une situation précise. Le but d'une parole de connaissance, très souvent, je vais vous montrer des exemples bibliques et aussi dans l'histoire de l'Église. C'est souvent de dévoiler une situation cachée, une situation que, à part la personne concernée, personne ne connaît, sauf Dieu. Et on va voir pourquoi c'est important, parce que c'est une façon pour le Seigneur de prouver qu'il est Dieu, qu'il est vrai, qu'il est omniscient, qu'il sait tout, qu'il est omniprésent, qu'il a toute solution, etc., etc. Elle dévoile, la plupart du temps, elle dévoile une situation cachée, voire une intention secrète. Vous allez voir les exemples, vous allez tout comprendre. C'est une situation, j'ai souligné, j'insiste, totalement ignorée de celui qui va apporter cette parole. C'est une situation totalement ignorée. Cette révélation, on parle bien de révélation, est directe du Saint-Esprit à celui qui va transmettre. Il donne la connaissance précise d'une situation, alors que, j'ai souligné, c'est très important, il n'y a aucun élément humain qui peut m'aiguiller ou me permettre de connaître quoi que ce soit. Ce n'est pas de la déduction logique. Ce n'est pas de l'intuition. Elle n'a absolument rien à voir avec l'intuition, la probabilité, je vais m'expliquer, l'analyse, la psychologie, la logique, l'expérience, la pratique, l'observation de certains mécanismes humains. Je vous donne un exemple. J'étais dans une autre église et il y avait un couple avec lequel, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était difficile. J'avais beau essayer d'aborder le couple dans tous les sens, je me heurtais sans arrêt à des murs. Plus j'essayais de les cerner, plus j'essayais de leur parler, plus les murs étaient verrouillés, fermés, hauts, épais. J'arrivais pas à pénétrer, il y avait de la suspicion, ils interprétaient mal tout ce que je disais. Je voyais qu'ils me faisaient pas confiance, j'arrivais pas. Et j'étais là, je cherchais, je disais « Seigneur, aide-moi, montre-moi la voie, l'accès, comment est-ce que… » Parce qu'avec ce couple, il y avait des attitudes, des comportements, il y avait des problèmes, c'était vraiment, vraiment des relations très tendu, et je voyais des méfiances, des suspicions, même à la limite un complexe de persécution chez eux. Et puis, à force de parler avec eux et de voir toutes ces attitudes chez eux, j'ai fini par comprendre, mais c'est pas une parole de connaissance, j'ai fini par comprendre, parce que j'ai quand même été 12 ans policier, donc des personnes blessées et un petit peu de psychologie, je maîtrise un peu, puis en 12 ans de ministère pastoral, des gens blessés et des mécanismes, j'en connais. Donc au bout d'un moment, je me suis arrêté de parler avec eux, je leur ai dit, écoutez, on va arrêter là la conversation. Il y a quelque chose qui est évident. Vous êtes blessés. Vous avez été trahis, soit par des chrétiens, peut-être même, je pense, plus particulièrement par le corps pastoral. Et là, bam, ils se mettent tous les deux à pleurer, ils m'ouvrent leur cœur et ils commencent à me dire ce qui les bloque et les raisons pour lesquelles, quand ils voyaient un pasteur, c'était épidermique. Ce n'était pas une parole de connaissance. Parce qu'avec un peu d'intuition, avec un petit peu de pratique, l'observation de certains mécanismes logiques, psychologiques, humains, mon expérience, la pratique, la probabilité, j'avais pas énormément de chance de me tromper en disant « vous êtes blessé et c'est pour ça que vous vous êtes enfermé derrière des murs et que vous voulez pas m'ouvrir la porte ». C'était pas une parole de connaissance. La parole de connaissance n'a rien à voir avec l'intuition, l'expérience ou l'observation. Elle exprime des choses que l'on ne peut absolument pas savoir si ce n'est par révélation. Une parole de connaissance amène la personne en face à dire « Comment vous pouvez savoir ça ?» C'est impossible. Vous ne pouvez le savoir que par une révélation de Dieu. Elle prouve, c'est pour ça que j'ai mis qu'elle est tellement précieuse et tellement utile dans le corps de Christ, dans notre témoignage personnel, parce qu'elle prouve l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout, il sonde tout, et il sonde jusqu'au plus profond de nos cœurs. Elle prouve que Dieu est omniscient et qu'il est absolument vrai, il est la vérité. Alors c'est une révélation spontanée sur des gens, des faits, des situations dont on ne sait strictement rien et on ne peut rien deviner. Et évidemment, comme tous les dons, j'insiste, parce que elle va dévoiler une situation. Elle va dévoiler une intention secrète. D'où l'importance que la parole soit toujours communiquée dans un esprit d'amour et dans un esprit de grâce. Même si elle doit dire des choses dures, sérieuses, c'est dans l'amour et dans la grâce, avec toujours le but de sauver, de restaurer, de relever, etc. C'est vraiment une occasion de salut, de restauration pour la personne qui entend cette parole. Donc, toujours dans l'esprit de la grâce, jamais pour pointer du doigt, jamais pour accuser ou détruire. Si elle dévoile une situation cachée, si elle met en lumière, c'est dans l'esprit de la grâce. Ok ? Alors maintenant qu'on a défini un petit peu sommairement, largement, on va passer à des exemples pratiques, on va passer à des exemples concrets. Je vous ferai pas lire tous les textes, j'en ai choisi 2-3. Je commence ici par 2 points. La parole de connaissance, pourquoi est-ce qu'elle est si précieuse quand on va voir des exemples dans la Bible et aussi dans l'histoire de l'Église? La parole de connaissance permet à Dieu de se révéler. Si vous avez fait attention, je vous fais pas lire ça, en Jean 4, vous relirez le récit de la Samaritaine. Cette femme, elle est dans sa religion, elle est dans son échec, ses échecs, elle est dans son péché. Il faut absolument, la première chose qu'elle a besoin de comprendre, c'est le besoin de toute personne sur cette terre, de comprendre que Jésus est Dieu. L'enjeu, c'est la divinité de Jésus. Et ensuite, de comprendre que cette eau dont Jésus parle n'est pas de l'eau matérielle, c'est pas de l'eau physique, c'est cette eau spirituelle qui va désaltérer mon être intérieur et qui va me faire vivre la vie de Dieu. Il faut qu'elle comprenne que Jésus est Dieu. Vous avez jamais eu de problème à faire comprendre à des gens que Jésus est Dieu. D'accord. Bon, ben moi j'ai eu des problèmes. Donc, il faut qu'elle comprenne ça en priorité et qu'elle comprenne aussi quelle est cette eau spirituelle dont Jésus est en train de lui parler. Donc, à un moment, dans l'entretien, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari. » Et là, elle répond, elle dit « Je n'ai pas de mari. » Et c'est là que Jésus dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » parce que tu as eu 5 maris Et celui avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Comment Jésus pouvait savoir ça? Si ce n'est par une parole de connaissance, Jésus étant lui-même pleinement et parfaitement rempli du Saint-Esprit. Et quand cette femme a été, elle était estomaquée, elle a été à son village, elle a laissé sa cruche au pied de Jésus, elle a été à son village, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? La parole de connaissance a été un moyen pour prouver la révélation, pour prouver la divinité de Jésus et le fait qu'il soit vrai dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il apporte. Et pour que Jésus sache ça, quand il y a une parole de connaissance, pour qu'une personne sache ça, c'est forcément que Dieu sait tout. C'est une preuve de la divinité de Jésus et qu'il est vraiment qui il dit être et qu'il a raison dans ce qu'il dit. Ça va ? Ok. Là, on va prendre le texte suivant. Jean chapitre 1er, si vous voulez bien ouvrir avec moi. Jean chapitre 1er, on va parler de Jésus et de Nathanaël. Jean chapitre 1er, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois !» Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jésus est en train de sonder son cœur. C'est sûr que cet homme, il a besoin de naître de nouveau, comme tout le monde. Il a besoin de tellement de choses, il a besoin de suivre Jésus. Mais il a un cœur droit, il a un cœur honnête, il a un cœur vrai. Un cœur pécheur, mais il a un cœur vrai devant Dieu. Et Jésus le discerne et lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et là, surprise, Nathanaël dit, « D'où me connais-tu ? Comment tu peux connaître mon cœur ? On s'est jamais rencontré, on s'est jamais parlé. Comment tu peux connaître les dispositions de mon cœur ?» Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelle, » Donc Jésus sait que c'est Philippe, là il y a encore une parole de connaissance, Jésus sait que c'est Philippe qui a parlé à Nathanaël et qui l'a emmené. « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, ça signifie maître, tu es, qu'est-ce que vous lisez ? Tu es le Fils de Dieu. » La parole de connaissance a été un moyen de prouver que Jésus était vraiment Dieu, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, chose que rien ni personne ne pouvait voir et savoir, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. La parole de connaissance a permis ici une fois de plus de prouver l'omniscience de Dieu, la divinité de Jésus et de susciter, j'ai souligné ici au verset 50, j'ai souligné, tu crois, et de susciter la foi dans le cœur de Nathanaël. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emma. Emma, elle doit partir en mission bientôt. C'est une histoire vraie. Emma doit bientôt partir en mission et il lui manque une somme d'argent pour son voyage missionnaire. Alors elle prie, elle demande à son Père Céleste de pourvoir. Et puis, arrive dans sa boîte aux lettres un chèque, des impôts, un trop-perçu. Erreur des impôts en votre faveur, veuillez trouver 6 juin un chèque de temps. Et c'était le montant dont elle avait besoin pour partir en mission. Certains diront, coïncidence. Elle, dans son cœur, elle sait que son Père Céleste est maître de toutes circonstances. Et elle bénit Dieu. Mais c'est pas fini. Le Saint-Esprit lui dit, appelle les impôts. Ben non, Seigneur, parce que si jamais c'était pas une vraie erreur en ma faveur, en plus c'est le bon montant, Seigneur. Non, Seigneur, complique pas tout, s'il te plaît. Mais le Seigneur insiste, appelle les impôts. Ah, mais Seigneur, mais si jamais on va repartir là, c'était bien, Seigneur. Pourquoi qu'est-ce que je vais leur dire? Ils vont me prendre pour une folle. Appelle les impôts et dis-leur que c'est moi qui ai permis ce remboursement. Elle prend son téléphone, elle appelle le centre des impôts qui se trouve dans une ville vraiment éloignée. Et puis y a une dame qui décroche. C'est le centre des impôts, bonjour. Et Emma dit je suis madame une telle, numéro un tel, numéro fiscal, blablabla. Écoutez, oui, voilà, madame, ok, vous avez reçu un chèque, oui, d'accord, ben tout est normal, d'accord, ben encaissez-le, c'est bien, on est à jour de tout. Et elle dit, écoutez, madame, je me sens pressée dans mon cœur, vous allez me prendre pour une folle, mais Dieu me dit de vous dire que c'est lui qui a permis ce remboursement. Et là, la femme au téléphone, derrière, elle se met à pleurer. Elle lui dit, vous êtes qui ? Elle dit, je suis chrétienne, l'église évangélique de tel endroit, je m'apprête à partir en mission. Puis elle raconte son témoignage. Et la femme des impôts au téléphone, elle pleure et elle dit, hier, j'étais dans un de vos cultes dans ma ville. Je suis allé dans un de vos cultes. En moi-même, j'ai rigolé de ce que j'ai vu et entendu. Et je me suis dit en moi-même, si Dieu existe, il va vraiment falloir qu'il me le prouve ou qu'il me passe un coup de téléphone. C'est une histoire vraie, hein, mes frères et sœurs. Et le lendemain matin, Emma téléphonait et disait, Dieu a permis ce remboursement. Vous voyez dans le témoignage, ça vaut pas le coup d'être rempli du Saint-Esprit. Mais vous voyez comment les gens en face, ils sont scotchés. Comment vous avez plus besoin de vous bagarrer pour prouver votre Dieu ou quoi que ce soit. La parole de connaissance, elle ouvre quelque chose. Elle ouvre un chemin extraordinaire. Après, la personne... C'est juste qu'elle veut accepter ou qu'elle veut pas accepter. Mais le débat, il est vu de clos. Parce qu'elle peut plus argumenter. Quelque part, les gens, ils sont coincés. On a besoin, frères et sœurs. Tous les dons sont précieux. Mais ici, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement précieux pour que, effectivement, on puisse être béni, encouragé et être beaucoup plus efficace dans le témoignage. La parole de connaissance, donc, permet donc de prouver la réalité de Jésus, la divinité de Jésus, son omniscience, de susciter la foi. Je vous donne un autre exemple. Ça remonte à un petit moment. C'est une histoire vraie. C'est le frère Lucien Vivier qui rapporte ça. C'est un article que j'ai retrouvé chez moi. C'est authentique. C'est signé Lucien Vivier. Et ceux qui connaissent Lucien Vivier savent que c'est pas le genre à raconter n'importe quoi. Donc, c'est un article que j'ai à la maison et qui est signé de sa main. Et j'ai retrouvé ça, j'ai dit, oh merci Seigneur, c'est une merveilleuse histoire. Il y a une femme qui est régulièrement violentée, battue par son mari. Le temps passe et elle en a tellement marre. C'est tellement injuste, elle s'en sort tellement pas, son mari ne change tellement pas, qu'un jour, elle fait ce choix, elle se dit, je vais me débrouiller, je vais aller me procurer une arme, et la prochaine fois qu'il essaye quoi que ce soit sur moi, je lui règle son compte, je n'en peux plus. Et, bien que ce soit difficile, on n'est pas en Amérique, hein, c'est sûr qu'en France, on se procure pas des armes comme ça, mais elle réussit quand même à se procurer une arme de façon illégale. Et une fois qu'elle s'est procuré cette arme au marché noir, elle rentre chez elle, et quand elle rentre chez elle, elle prend une certaine rue. Et quand elle passe dans cette rue, elle entend des chants qui viennent d'un certain local. Elle est interpellée, elle dit « c'est beau ces chants ». Elle s'approche, elle regarde, elle ouvre la porte, elle rentre, elle est surprise de voir une communauté de gens qui chantent, qui prient. Donc elle reste là, elle attend, elle entend, elle écoute. Et pendant qu'il y a ce temps de prière où elle est en train de regarder en se disant « mais c'est qui ces gens ?» Il y a une parole qui est apportée, c'est plus dans le style prophétique, mais c'est une parole de connaissance. Il y a une parole qui est apportée et la parole de connaissance dit ceci « j'ai vu l'arme que tu as été achetée et je sais ce que tu veux faire avec. Ne fais surtout pas ça. Parce que moi, j'ai des armes spirituelles beaucoup plus puissantes et beaucoup plus efficaces pour toi. » Elle a renoncé à son plan mauvais. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle et ses deux filles se sont converties et ont été baptisées. Et à partir de ce moment-là, Dieu a agi. Son mari ne l'a plus jamais touchée. Puissance du Saint-Esprit, de son omniscience dans toutes les situations de nos vies. Vous comprenez bien, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'observation de paramètres humains. C'est une révélation spirituelle, surnaturelle, de faits, de pensées, d'intentions qu'il était impossible de connaître autrement que par une révélation du Dieu vivant et vrai. Et si le Saint-Esprit sait ça, c'est qu'il sait tout. Donc, je peux lui faire confiance et je peux avancer avec lui et lui donner ma vie. Allez, je vous donne encore 2 points ici, après ce sera terminé. Je veux être surtout beaucoup plus pratique. 2 points encore. Pourquoi la parole de connaissance est précieuse? Elle amène aussi, elle amène la crainte de Dieu. C'est peut-être un point qui va peut-être moins nous faire sourire, mais pourtant, il est véridique et il a été vérifié dans la Bible et en dehors de la Bible. Le premier exemple dont je vous parle, je vous fais pas chercher, vous relirez, parce que le chapitre est un peu long, vous relirez 1 roi chapitre 14. C'est l'histoire du roi Jéroboam. Jéroboam, c'est un roi idolâtre, c'est un roi apostat, qui refuse de revenir de ses mauvaises voies, qui refuse de se repentir. Et puis un jour, son fils tombe malade. Et cet orgueilleux ne veut pas aller consulter le prophète. Donc, comme il sait que le prophète est vieux et qu'il est peut-être pas aveugle, mais quasi aveugle, vous relirez le texte, en tout cas il est quasi aveugle, il dit à sa femme, il y en a qui rigolent, ils connaissent bien le récit et l'humour de Dieu, il dit à sa femme, toi, vas-y, toi, déguise-toi, apporte-lui ça, ça, ça et ça, déguise-toi comme ça, et comme le vieux, il y voit plus rien ou presque, t'inquiète pas, ça va aller tout seul, et tu vas le consulter, tu vas lui demander ce qui va arriver. Elle met son subterfuge en place, elle se déguise. Et à peine elle arrive à l'entrée de la porte du vieux prophète Achija, il s'appelle Achija, à peine elle arrive à la porte du vieux prophète Achija, que Achija lui dit « Entre, femme de Jéroboam !» Il y a des gens, ils pensent que la Bible, c'est un bouquin religieux ennuyeux. « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi est-ce que tu te déguises ? Pourquoi est-ce que tu te fais passer pour une autre ? Tu es là parce que j'ai des choses graves à te dire. » Et effectivement, vous relirez la suite des textes, le prophète Achija a vraiment quelque chose de très sérieux à dire à cette femme, pour son mari Jéroboam et pour le peuple. Il lui dit « Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. » Pourquoi à ce moment-là, le Seigneur a permis cette parole de connaissance qui a littéralement dévoilé cette femme ? Parce qu'il fallait qu'elle prenne au sérieux ce qui allait être dit derrière. Il fallait capter son attention. La parole de connaissance, ici, permet d'amener la crainte de Dieu. Vous le savez, hein, je l'ai suffisamment dit, c'est pas la peur de Dieu, c'est simplement ce profond respect. On prend Dieu au sérieux. Et la parole de connaissance amène aussi cette crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on le prenne vraiment très au sérieux. Alors ensuite, malheureusement, Jéroboam n'était pas homme à se repentir, etc. C'était ses choix, il les a assumés. Mais, cette parole de connaissance a attiré l'attention de cette femme parce que derrière, il fallait que Jéroboam, cette femme, le peuple, prennent Dieu très au sérieux. Vous comprenez ? Voilà un autre aspect, une autre facette de la parole de connaissance. Allez, on ouvre ensemble maintenant un autre exemple, cette fois dans le Nouveau Testament, et on va regarder un petit peu pour Ananias et Saphira. Alors c'est sûr que c'est un cas un petit peu particulier, parce que, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est particulier, parce que c'est sûr que dans leur cas à eux, il n'y a pas eu d'appel à la repentance, ils n'ont même pas eu le temps de se repentir. Et la sentence divine est tombée tout de suite sur eux. Mais c'est vraiment... la parole de connaissance qui a amené un profond respect de Dieu, qui a amené la crainte de Dieu aux yeux des auditeurs et aux yeux du peuple. Actes, chapitre 4, verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Pourquoi je lis ça? Parce que je suis convaincu que derrière l'histoire d'Ananias et de Saphira, il y a bien plus qu'un simple mensonge, vous allez le voir. Il y a bien plus qu'un simple mensonge. Il y a vraiment cette volonté diabolique de se déguiser et d'infiltrer le peuple de Dieu de façon pernicieuse. Et c'est pour ça que ça va être très très mauvais pour eux derrière. Mais ils ont dû quand même être inspirés par ce fait pour essayer de trouver une voie d'accès. Mais ils ont absolument pas le cœur. Mais un homme nommé Ananias, verset 5, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le savait très bien. Puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc en plus d'une parole de connaissance, il y a aussi un bon exemple ici, j'y reviendrai, du discernement des esprits. Et j'ouvre une parenthèse, pas tout le temps, mais ça arrive que des dons soient liés, soient imbriqués entre eux dans la parole de Dieu. Les dons peuvent être liés et interdépendants. Je ferme la parenthèse. Ici, ça en est un exemple. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et là, vous lisez la fin du verset 5. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ici, on a vraiment l'exemple d'une parole de connaissance. Pierre ne savait absolument pas qui était Ananias et qui était Saphira, ni ce qu'ils avaient comploté entre eux, ni l'accès qu'ils avaient laissé à Satan dans leur cœur. Ils ne les connaissaient ni de près, ni de loin. Ils les avaient jamais vus. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est une authentique parole de connaissance. Et après, pour vous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle sentence. Parce que Stéphane t'a quand même dit que la parole de connaissance dans l'esprit de la grâce, de l'amour, permettait aux gens qui avaient été dévoilés de se repentir. Et puis là, il n'y a pas de possibilité de repentance. Crac, c'est tombé direct. Ils ont même pas eu l'occasion de dire « je suis désolé » ou « pardon Seigneur ». Ils sont morts sur le coup. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, tout simplement, Dieu n'étant pas injuste et il savait très bien ce qui était en train de se passer, comprenez juste ici simplement que c'était des gens à l'image de un Judas, à l'image d'un pharaon, à l'image de certaines figures comme ça de l'Ancien et du Nouveau Testament, avaient passé un point de non-retour. Le Seigneur le sait, il sonde, il discerne tout. Il sait très bien qu'il ne se serait jamais repenti. Il sait très bien, vu ce qui s'était passé spirituellement, vous avez compris, c'est pas un simple mensonge, hein. Heureusement, hein. Parce que si à chaque fois qu'il y a des pasteurs ou des chrétiens qui disent des mensonges, crac! Il n'y aurait pas grand monde dans les églises dimanche prochain. Hein. La semaine, elle va être serrée pour tout le monde. D'accord? Donc, vous comprenez bien que c'est pas l'histoire d'un simple mensonge. Même si, attention, Dieu est lumière, on ne joue pas avec le mensonge. Parce qu'un jour, quand on joue avec le mensonge, un jour, il finit par prendre tellement de place, j'insiste quand même, il finit par prendre tellement d'importance que, hop, la tendance se renverse et c'est pas moi qui joue avec le mensonge. C'est le mensonge qui joue avec moi. C'est l'orgueil qui me tient et c'est le mensonge qui joue avec moi. Donc, de toute façon, on ne joue pas avec le mensonge. La nouvelle que nous avons apprise de lui, dit Jean, c'est que Dieu est 100% lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Mais vous avez compris, il y a des moments, effectivement, je me suis laissé avoir. Oh, mince! Oh, j'ai dit ça, j'étais coincé, je me sentais mal, j'ai pas osé dire que j'ai fait une esquive. Ah, Seigneur, pardonne-moi, ce que j'ai dit, c'était pas honnête, c'était pas vrai, c'était pas... Oui, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Mon cœur est honnête et sincère et repentant devant Dieu et le Seigneur me pardonne. Mais je ne veux pas jouer avec le mensonge. Je sais quel est mon adversaire, le diable, le père du mensonge. Pourquoi une telle sentence? Parce que justement, à leur niveau, c'était pas un simple mensonge. Ici, il fallait dévoiler un stratagème inspiré par Satan lui-même. Il est le prince de la dissimulation. Il fallait dévoiler des gens qui se déguisaient pour infiltrer le troupeau de façon pernicieuse. Et comme il n'y avait plus de voie de salut et de repentance pour eux, ils avaient passé un point de non-retour. C'est pour ça qu'il y a eu une sentence immédiate. Et comme vous l'avez lu, je ne l'ai pas mis ici parce que je vous l'ai fait lire, Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Il faut déjà avoir quand même un sacré degré d'entêtement et d'aveuglement pour espérer mentir à Dieu quand même. Et vous comprenez un petit peu le sérieux de la situation et le sérieux de la sentence. Verset 9, vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur. Verset 5 et verset 11 que j'ai pas lu, mais verset 11 aussi. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Vous savez, frères et sœurs, dans les temps de réveil, le Seigneur ne manifeste pas seulement sa grâce, sa bonté, son salut, sa restauration, sa puissance, ses miracles, etc., etc. Dans les temps de réveil, le Seigneur relâche aussi une dimension réelle de sa sainteté. Et je suis pas toujours sûr, frères et sœurs, qu'on ait bien conscience de ce qu'on dit quand on dit « Seigneur, envoie un réveil ». Même s'il faut le faire, même s'il faut prier dans ce sens. Mais attention, évidemment, quand il va y avoir des temps de réveil, je bénis Dieu, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu permettra des temps de réveil. Il y aura aussi de véritables retours à sa sainteté et beaucoup de situations que nous considérons comme anodines aujourd'hui qui deviendront intolérables demain et qui devront absolument être réglées. Parce que Dieu est un Dieu saint. C'est pas pour me menacer, c'est pour mon bien, c'est pour ma vie, c'est pour ma propre santé, et c'est pour mon épanouissement et pour mon bonheur qu'il a dit, vous serez saint, parce que je suis saint. C'est un cadeau que je vous fais. Amen. Un exemple pour vous montrer que dans les temps de réveil, il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Je vous m'excusez, il y a tellement d'anecdotes, tellement de belles expériences qui se racontent, enfin, qui sont vraies, qui sont même vérifiables. Il y a des articles, etc., des écrits qui sont laissés de certains temps de réveil. Mais je me souviens plus. C'était dans une grande mission d'évangélisation. Il y avait un évangéliste, je sais plus qui, pardonnez-moi, mais l'histoire est vraie, je vous garantis. Il y avait un évangéliste qui était là. Et puis, il y avait naturellement, dans ce temps-là, plus de miracles, plus d'action de l'esprit, sa puissance étant relâchée dans ces temps-là, plus qu'en temps normal de ce que nous connaissons habituellement. Et puis, il y a deux jeunes qui ont remarqué un petit peu ce qui se passait dans les églises évangéliques, puis qui sont un petit peu moqueurs, puis qui se disent, tiens, viens, on va aller s'en payer une bonne tranche. On va rigoler un peu avec les évangéliques 2 minutes. Et puis, il y en a un des deux qui dit, ouais, vas-y, mets-toi dans la chaise roulante, là. Et puis tu vas y aller, c'est authentique, hein. Tu vas y aller, puis quand le pasteur il priera pour toi, tu te lèveras, puis tu diras « Ouais, super, je suis guéri comme ça !» Tu vas voir comment les gens ils vont réagir, quand ensuite ils vont savoir que j'étais pas handicapé. Les deux jeunes, ils viennent à la réunion. Au moment de l'appel, de l'imposition des mains, le jeune, il pousse son copain dans la chaise roulante, et il l'amène devant pour que le pasteur prie pour lui. Et au moment où le pasteur s'approche, il a une parole de connaissance. Il lui dit « Monsieur, vous n'êtes pas handicapé. Par contre, vous allez apprendre qu'on ne se moque pas du Saint-Esprit. Et vous allez rester dans cette chaise jusqu'à ce que vous vous repentiez. » Le gars, il a fait. Il est reparti dans sa chaise roulante. Jusqu'au jour, je suis pas complètement sûr, je crois oui dans l'histoire, qu'il s'est repenti. Je vous garantis, c'est une histoire authentique. Dans les temps de réveil, on va pas rigoler avec Dieu, hein. Il y a des choses que le Seigneur ne tolérera pas, il ne tolérera plus. Mais ce réveil est salutaire, il révèle de nouveau l'omniscience, la puissance, la sainteté, la gloire de Dieu. Et il inspire, les paroles de connaissance doivent inspirer, comme ici en acte 4, 5, un profond respect de la nature de Dieu et de sa sainteté. Amen. Allez, un dernier exemple, elle peut aussi servir à protéger. Là, je vous en dis juste quelques mots. La parole de connaissance, 2 Rois chapitre 6, c'est ce fameux moment où le roi de Syrie s'est lancé en guerre contre Israël et il tente toujours de placer des embuscades. Et ces embuscades sont toujours déjouées parce que Élisée reçoit les paroles de Dieu et il dit au roi d'Israël, ne va pas ici, le roi de Syrie t'attend. Ne va pas ici, tu vas être piégé. Ne va pas ici, t'as une embuscade. Et Élisée dit au roi d'Israël ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Le roi de Syrie convoque ses généraux, puis à un moment, il dit, non mais écoutez, dites-moi lequel de vous est en train de donner des renseignements à l'ennemi, parce qu'à chaque fois que j'organise quelque chose, de toute façon, c'est déjoué. Donc, il y en a un au milieu de vous qui me trahit. Mais il a des sages et il a des gens qui sont sages humainement parlant et qui ont une connaissance du Dieu d'Israël qui fait des choses qui les dépassent. Et il y a un de ces généraux qui dit, mais non, roi, personne ne t'a trahi. Mais vous relisez, hein, il n'y a pas beaucoup de versets, vous lirez chez vous. Et le général dit, mais non, ô roi, sache que c'est Élisée. Personne ne te trahit. C'est Élisée qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces en secret dans ta chambre à coucher. L'Esprit de Dieu, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il lit dans mon cœur. Et quand le roi de Syrie était en train de comploter des choses contre son peuple, le Saint-Esprit révélait à Élisée, c'était des paroles de connaissance, d'accord, des choses qu'il n'aurait pas pu savoir autrement, des paroles de connaissance. Élisée allait voir le roi et lui disait, bon, ben, le Seigneur m'a dit ça, tu passes pas par là, tu vas là, tu passes pas par là, tu vas là. La parole de connaissance, frères et sœurs, parfois, tout simplement, elle peut aussi servir à protéger. Elle prouve, je l'ai mis, je l'ai souligné ici, l'omniprésence de Dieu. Toutes les embuscades du roi de Syrie ont été déjouées. Les paroles de connaissance données à Élisée ont protégé le roi et l'armée d'Israël à ce moment-là. Vous voyez tout ce que les paroles de connaissance, une parole de connaissance, peut produire. On peut terminer ensemble, juste un verset pour la conclusion. 2 Corinthiens 13, 13. Ce sera ma conclusion pour ce matin. Je ne vais pas vous faire relire 1 Corinthiens 14, là où Paul dit « aspirez aux dons ». Et vu à quel point c'est précieux, je comprends que Paul ait dit « aspirez aux dons », recherchez-les ardemment. Mais il souhaite aussi aux Corinthiens, à la fin de ces deux épîtres, 2 Corinthiens 13, 13, Paul termine deux épîtres extrêmement importantes par ces mots, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La communication du Saint-Esprit qui se traduit autant par, le mot grec se traduit autant par communion que par communication. Que la communion du Saint-Esprit soit votre partage, que les communications du Saint-Esprit soient avec vous. Vous savez pourquoi c'est le même mot ? Parce que, frères et sœurs, on n'aura jamais d'authentique communication si on n'a pas une communion de qualité. Une communion de qualité avec le Saint-Esprit, c'est le chemin, c'est la clé pour avoir de véritables communications surnaturelles, miraculeuses du Saint-Esprit pour affirmer, pour confirmer notre témoignage de Jésus-Christ dans ce monde. Amen.